France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Pour son retour au théâtre après 25 ans d'absence, François Cluzet a choisi d'incarner un psychiatre inquiétant mais très ambitieux. Il est mis en scène par Emmanuel Noblet dans la pièce « Encore une journée divine ». Tous les deux seront mes invités à partir de 13h. Mais on commence cette heure et demie de culture avec la critique. Aujourd'hui au menu de la littérature avec deux romans intimes et intenses. « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon et « L'hospitalité aux démons » de Constantin Alexandrakis. Voilà, vous connaissez le programme. Bonjour à toutes et à tous. Ces critiques, je vous les présente. Marie Sorbière, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture, ici même sur France Culture.
Bonjour.
Virginie Bloch-Lenné, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. Elle avait fait de l'histoire de son arrière-grand-mère le sujet de sa thèse. Et c'est devenu un premier roman. Adèle Yon, 30 ans, chercheuse en études cinématographiques, signe « Mon vrai nom est Elisabeth » aux éditions du Sous-Sol. Au commencement, une narratrice qui craint de devenir folle et se pose des questions sur son aïeul dont personne ne parle dans cette famille catholique et silencieuse. Petit à petit, à force de recherches, de rencontres, le portrait de celle qu'on appelait Betsy va se dessiner. Tragique. Celui d'une femme trop vivante, trop libre, que son mari et la loi des hommes ont enfermée dans des institutions psychiatriques. Elle y subira une lobotomie qui la changera à tout jamais. C'est donc aussi l'histoire du sort des femmes qui sortaient trop du cadre au XXe siècle. On commence par un avis rapide de l'une et de l'autre, Virginie Bloch-Lenné.
Remarquable. C'est une enquête. Elle utilise des documents réels, des archives, des conversations, des entretiens qu'elle a avec les membres de sa famille. Mais ce qui est remarquable, je trouve, ce qui fait qu'on a envie de lire l'histoire d'une femme qui a subi une lobotomie, c'est qu'elle en fait presque un roman. Elle travaille énormément sa matière. Parfois, je me suis demandé si elle n'inventait pas même quelques pièces qu'elle joint au dossier. Et ce travail est remarquable et fait qu'on est on est bien dans ce livre. Et l'écriture est formidable, et surtout la composition.
Marie Sorbier.
C'est une vraie belle découverte, ce premier livre. C'est un tour de force, hein, d'ailleurs, pour un premier roman, parce qu'elle parvient à mener à la fois une enquête intime sans tomber dans les travers du genre. On y reviendra peut-être. Et pour moi, alors, le grand intérêt de ce livre, c'est d'éviter le trop de didactisme ou le trop de commentaires qui auraient vraiment alourdi l'histoire et de faire en fait confiance à l'esprit critique des lecteurs.
On va écouter tout de suite un extrait de « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon.
Le lendemain de la mort de Jean-Louis, je téléphone à ma grand-mère pour lui témoigner mon soutien et ma tendresse. Elle est assez remuée, c'est tout de même son frère, et elle ne lui a pas parlé depuis 10 ans. Mais fidèle à elle-même, il n'en paraît rien. Elle dit « Nous sommes horrifiés ». Je pense que ma grand-mère a toujours utilisé la première personne du pluriel pour qualifier ses émotions. Puis elle dit « C'est le dernier chapitre de ton enquête ». Il est aisé de penser, maintenant qu'un homme est mort, mais pourtant si juste, que cette histoire ne pouvait mener qu'à ce point ultime. Qu'il fallait qu'un corps d'un bond se jette en chute libre pour remplacer un autre corps. Emporté par des hommes en blanc, un autre matin de janvier, 70 ans plus tôt. Mais n'est-ce pas précisément là qu'elle peut commencer ? Jean-Louis est mort, et les membres de ma famille se sont mis à parler. Moi, je les enregistre. Dans le coffre de la Honda Civic de location, immatriculée 245 AWD32, on a trouvé 5 livres. La condition humaine de Malraux, un recueil de poèmes de Rimbaud, Disgrâce de Coetzé, Trop c'est trop de Sandrard et Les mots de Sartre. Que peuvent nous dire 5 livres de la vie d'un homme ? Dans le coffre de la Honda, on a également trouvé une photo de sa mère. Mon arrière-grand-mère, Betsy. Une toute petite photo d'identité qui tient dans la poche.
Mon vrai nom est Elisabeth, c'est un extrait lu par Anaïs Isbert. Virginie Bloch-Lenné, l'enquête sur un secret familial, on en lit beaucoup ces derniers temps. En quoi celui-ci se distingue ?
Celui-ci se distingue parce qu'elle ne se met pas. Elle se met en scène en cherchant, mais elle livre des matériaux qui ont l'air bruts, mais qu'elle a sans doute retravaillé. Et si bien qu'on est dans un roman, on a l'impression d'être dans un roman. Là, ce qui a été lu n'est pas exactement le tout début. Le tout début, c'est des mails reçus consultée par l'autrice, envoyée par un homme qui s'apprête à se jeter du 7e étage, à se défenestrer. Et cet homme est un descendant de Betsy, de cette femme qui a subi une lobotomie. Donc c'est un livre sur le silence, et ce sera le fil directeur du livre, de constater les effets du silence. Mais c'est ce travail de composition qui fait qu'on a envie de lire cette histoire sinistre, et qui distingue ce livre d'autres livres. Il y en a énormément d'enquêtes sur le grand-père, le père, la mère, les grands-parents. Il a une singularité qui, à mon avis, ne peut pas être imitée, mais qui donne envie de découvrir la suite du travail d'Adèle Lyon.
Marie Sorbier ?
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire, pour moi, la vraie spécificité de ce livre, c'est pas tant l'enquête intime familiale que, en effet, on a beaucoup lu et sous toutes ses formes, c'est qu'elle arrive, Adèle Lyon, à placer son jeu, J.E., à un endroit très particulier et qui me semble très juste. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas en avant alors même qu'elle parle de sa propre famille et qu'elle parle d'elle, hein, puisque l'interrogation, c'est de se dire, à 25 ans, elle s'est demandé si elle n'allait pas elle aussi tomber dans la folie. Elle s'aperçoit finalement que toutes les femmes de sa famille ont eu cette même interrogation autour de 25 ans. Et en fait, son enquête part de là en disant mais qu'est-ce qu'on porte en fait ? Quel est le trauma familial qu'on se trimballe toutes pour avoir cette question-là ? Donc elle part d'une interrogation très intime et personnelle. Et pourtant, elle arrive à mettre son jeu à distance. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionnée, encore une fois pour un premier roman, cette maîtrise de la distance, de l'intimité, alors même qu'elle parle de quelque chose de très intime. Ça, c'est vraiment très réussi. Et elle y arrive, à mon avis, pour une raison, qui est qu'elle parle de son arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connue, qui est morte avant sa naissance, et qui lui évite, je pense, de tomber dans un trop grand pathos du problème à la mère, au père ou aux grands-parents qu'on a peut-être connus et donc fréquentés. Là, c'est pas son problème, elle ne la connaît pas. Elle en a à peine entendu parler dans la famille, puisqu'on l'a dit, la vraie question de ce livre, c'est le silence, donc personne ne parle de cette femme. Il y a à peine une photo dans une maison de famille, dans un coin, et puis quand elle pose une question, en fait, personne ne lui répond. Donc elle n'a pas de lien, je dirais, direct, à part celui de savoir que c'est son arrière-grand-mère. Ça lui permet d'être à distance. Et ce qu'elle fait aussi très bien, je trouve, c'est qu'elle nous met dans ce livre des mails, vous l'avez dit, une correspondance entre son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père avant qu'ils soient mariés, mais aussi tous les rapports qu'elle reçoit des frères et sœurs de cette arrière-grand-mère, des enfants, enfin de toute la constellation familiale qui finit par accepter de dire des choses et de parler. Elle nous met tout ça, mais elle ne le commente pas, ou très peu, disons. Notamment la correspondance entre André et Betsy, qui est quand même,
c'est le futur mari.
Je vous recommande de lire ça parce que on a quand même un témoignage de ce que pouvaient être des fiançailles au début du siècle. Hein, on est
en 1940.
Voilà, ouais. En 1940, ça c'est quand même un témoignage de ce que c'était être amoureux à cette époque-là et de ce que ça voulait dire être fiancé, se marier dans ces familles catholiques, qui est très intéressante. Et voilà, donc tout ce matériel qu'elle pose, qu'elle donne au lecteur, mais qu'elle commande par la bande ou en tout cas qu'elle ne justifie pas. Moi, ça m'a beaucoup plu et très étonnamment, ça m'a laissé beaucoup de place en tant que lectrice. Et donc, je me suis intéressée à son propos, au-delà même du fait que c'était son arrière-grand-mère. Parce que finalement, ce qu'elle décrit, c'est la condition des femmes à ce moment-là. Et donc, on se sent toutes concernées et tous concernés par cette histoire-là. Elle met à jour des choses incroyables, notamment par exemple ce fait que la colère était en fait considérée comme une maladie mentale. Si on avait un caractère un peu fort et des emportements... Chez une femme, les hommes de votre entourage pouvaient dire « Attendez, elle n'est pas apte à vivre dans un foyer, elle n'est pas apte à être mère, donc elle est folle, donc on va l'interner. » Ce simple cheminement qu'elle explique très bien, moi, m'a absolument glacée.
Alors, elle est à distance, mais alors elle découvre qu'une lobotomie a été pratiquée sur son arrière-grand-mère, mais elle découvre encore d'autres choses, c'est-à-dire la façon dont elle a eu des enfants contre son gré. Enfin, c'est quand même une histoire très, très douloureuse.
Oui, je voudrais revenir sur André, cet homme qu'elle a choisi, qu'elle a insisté pour avoir, parce qu'elle voulait fuir sa famille. Elle n'était pas bien chez elle, donc elle est partie. Elle a rencontré André, très catholique, très croyant. Et Marie a dit, il s'envoie des lettres que l'autrice a vues. C'est un témoignage sur un certain type de famille catholique. Il est fanatique. Les lettres sont impressionnantes et on se dit, parce qu'elle a peur, l'autrice, d'être folle, elle dit que d'autres femmes de sa famille ont peur d'être folles, mais le fou, c'est lui. Il met leur rencontre sous le signe de Dieu, il faudra de la pureté dans leur couple, dans leur union, il la prévient qu'il aura de l'autorité sur elle parce que c'est ainsi que le Seigneur le veut, et elle lui écrit qu'elle est une femme qui a besoin de beaucoup de liberté, elle le prévient, elle est guirette dans les premières lettres et elle lui écrit, et ça c'est étonnant, et en effet l'autrice n'explique pas pourquoi, à un moment elle lui écrit je choisis les fers, je veux bien, elle comprend que lui il veut de l'autorité, bon eh bien je choisis les fers. Donc ça c'est un mystère, pourquoi elle a tout de même été vers cet homme qui l'avait prévenu. Et elle découvre la peur qu'ont eu d'autres femmes d'être folles, parce que il y avait ce silence, mais il y avait quand même le bruit qui circulait qu'une femme de leur famille avait été folle. Certains dans la famille ont fréquenté Elisabeth, ils l'ont vue apathique, souriante, et cette figure-là effraie.
Marie Sorbier.
Oui, je voulais revenir sur cette histoire de silence. En effet, pour moi, c'est le sujet du livre. D'ailleurs, c'est ce qui relie nos deux livres du jour dans cette critique. Mais ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que l'autrice laisse une place à des membres de la famille qui, eux, préfère le silence. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on dit beaucoup, on dit qu'il faut dire, on raconte nos traumas, on les écrit, on en parle, etc. Et il y a des membres de cette famille plus âgés, donc les enfants de cette Betsy, donc on est sur des gens qui ont peut-être 80 ans aujourd'hui, et qui lui disent à l'autrice, quand elle est en train de mener son enquête, mais moi je veux pas savoir en fait, le silence m'a protégée toute ma vie, j'ai pas voulu voir quand j'étais enfant, je veux pas voir aujourd'hui, et cette défense du silence, elle est assez intéressante à lire et à voir, parce que je crois que ça concerne aussi beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens pour qui cette libération de la parole n'est pas une vertu et qui ont besoin du silence comme protection. Et ça, je trouve que c'est un thème qu'on voit pas souvent non plus. Et elle, pareil, elle le juge pas. Elle retranscrit les entretiens avec, je crois que c'est un des fils, qui raconte ça, un des fils de Betsy. Elle le retranscrit avec, voilà, vraiment retranscrit. Donc, phrase près, elle enregistre ses entretiens et puis on a la retranscription telle qu'elle. Et moi, j'ai trouvé ça très juste, voilà, de mettre aussi cette parole-là en avant, que certains ne voulaient pas. Et d'ailleurs, il y a aussi une fille, je crois, ou une petite fille qui dit qu'elle la laisse enquêter sur cette arrière-grand-mère, mais qu'elle ne lira pas le livre et qu'elle ne veut pas répondre aux questions et qu'elle ne veut rien savoir. Donc, il y a aussi cette partie du silence qui se maintient. Et le silence comme protection, je trouve ça intéressant.
Virginie Bloch-Lenné, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début. On est bien dans ce livre et c'est un roman, parce que là, on parle de retranscription, on parle d'enquête. C'est une chercheuse, l'autrice au départ. Alors, en quoi ça fait roman, tout de même?
Elle invente des choses. Elle invente des surnoms à ceux qu'elle rencontre, le fils aîné, celui qui voyait à travers les murs, parce que Betsy a dit qu'elle était observée, ça je crois que c'est le père de l'autrice, par l'un de ses petits-fils qui avait une chambre mitoyenne de la sienne, et elle a dit que le soir il la regardait nue à travers les murs. Elle invente, donc il y a ces surnoms qu'elle invente, mais il y a, je trouve que ça fait roman dans la façon dont elle ne commente pas, par exemple ces mails étonnants du début d'un homme qui est prêt à se défenestrer, elle nous les livre comme ça, c'est presque comique. Il prévient les gens de sa famille calmement qu'il va se tuer, elle ne fait pas de commentaires. Après, elle parle de la voiture. Elle dose l'information sur elle-même, en effet, elle en dit très peu, elle dit qu'elle a été avec un homme avec lequel elle a accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter, mais elle le dit, c'est implicite, elle n'en rajoute pas. Donc il y a ce dosage qui je trouve forme un livre dont qui est composé, et parfois je me suis demandé si les témoignages elle les a rangés ou pas. Elle laisse tellement de liberté, de place, comme l'a dit Marie, au lecteur, qu'on peut se demander peut-être qu'elle l'a fait, si c'est vraiment de la matière brute ou si elle arrange ses entretiens, parce que il y a des réponses qui sont assez drôles.
Ne serait-ce que sans Marie. Tout divulgâcher, elle clôt par quelques pages où elle raconte finalement l'histoire de cette fameuse Betsy qu'on a réussi à avoir
à toute
par pièce
fin.
Du puzzle. Alors sans dire exactement ce qui s'est passé à l'intérieur, ça c'est forcément inventé. Enfin, c'est forcément de la littérature, parce que c'est elle, avec tout ce qu'elle a récolté, qui compose une histoire vraisemblable. Mais là, on n'est plus dans le...
Ah oui, à la fin, elle rentre dans le roman de Betsy.
Exactement.
En fait.
Elle réécrit cette histoire. Elle suppose.
Suppose. D'ailleurs, elle prête pas beaucoup de pensée à Betsy, mais elle imagine quand même un peu ce qui s'est passé dans la tête de Betsy quand elle a été vers cet homme vers lequel il fallait pas aller.
Et donc c'était Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Yon, et c'est aux éditions du Sous-sol. Voilà. Et je précise qu'Adèle Yon sera l'invitée de Nicolas Herbeau dans les matins du samedi, ce sera samedi prochain.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Avec le roman qui suit, il est aussi question, on l'a dit, de transpercer le silence qui s'est amoncelé comme ça pendant des années. L'hospitalité aux démons est le deuxième livre de Constantin Alexandrakis. Dans son autobiographie fictionnée, il y a celui qui parle, le père. Père frais et moulu d'une petite fille de quelques mois. Et la présence de cet enfant fait soudain remonter la propre enfance du père et les agressions sexuelles qu'il a subies entre ses 9 et 14 ans. Le voilà, le démon. Un démon dont il craint qu'il colonise son rapport à sa fille. Alors le père va l'affronter dans ce qu'il appelle, je cite, « une foireuse petite cartographie des violences sexuelles faites aux mineurs ». On commence par un avis rapide, Marie Sorbier.
C'est un livre essai qui m'a beaucoup surpris, notamment parce qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, d'être en immersion dans la tête d'une victime de pédophilie qui, une fois adulte, lutte pour ne pas reproduire ce même trauma avec sa fille. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le point de vue masculin, que je trouve que j'avais pas encore lu et vu. Et c'est ça qui m'a surpris. Je trouve que c'est un livre courageux, c'est un livre de combat, qui essaie en fait d'être au plus près d'une vérité qui est évidemment difficile à dire, mais surtout difficile à entendre. Et je crois que c'est ça le vrai sujet du livre.
Virginie Bloch-Lenay.
Oui, le livre m'a beaucoup plu aussi. J'ajouterais que ce qui est aussi remarquable, c'est l'écriture. C'est un témoignage d'une victime de pédophilie. Il met dans son écriture le corps à corps qu'est ce livre entre la violence qu'il sent parce qu'il a été victime, il est très en colère. Corps à corps pour essayer de faire taire sa rage. Il y a des moments de rage face à l'enfant quand sa petite fille n'obéit pas pour ne pas devenir violent. Corps à corps, voilà, avec ce souvenir et avec l'écriture. Et il y a parfois une calligraphie particulière qui est le miroir de ce corps à corps. C'est toujours fait à bon escient. Il lutte avec un mal archaïque, ancestral, et il met ça dans la graphie, et c'est remarquable. Et c'est aussi un texte drôle,
oui,
étonnamment.
C'est ce que j'allais vous demander, ouais. C'est drôle. On va en parler. On écoute d'abord un extrait de L'hospitalité aux démons, un extrait qui est lu par Marceau Vassy.
Coincé dans une voiture surnommée Loki, l'artisan de malheur, le diffamateur des dieux, tour à tour moustique, cheval ou saumon, on quitte la maison scientifique, encore un de ces musées construits sur d'anciens abattoirs. C'est Noël. On habite les brumes du Grand Nord, autrement dit, le monde nos rois, autrement dit, le royaume du Danemark, autrement dit, nulle part. L'enfant unique, une petite fille, exige depuis une demi-heure une tétine rouge, rapportée pour la blague de Saint-Pétersbourg. Une tétine qui imite une sorte de dentier monstrueux, bouche de monstre aux dents pointues, mais impossible de retrouver la tétine gore dans la bagnole exiguë qui porte le nom d'un dieu retors, déclencheur de l'apocalypse, cette foutue tétine rouge. Et la petite fille hurle « ma tétine » pendant 5 minutes, « ma tétine, sans discontinuer, « ma tétine, et le père se glace. Cette petite fille, la sienne, c'est moins qu'une personne, à peine une chose. Ma tétine, une chose qu'il s'agit de faire taire, de neutraliser. Des phrases sortent de l'enclos de ses dents, les dents du père, méchantes, méprisantes, blessantes. Salomé, la mère de cette famille, essaie de temporiser. Mais jusqu'au soir, une rancune tenace, rancune tenace, rancune tenace. La colère, trop puissante pour une simple tétine, incrustée comme par un jeu de miroir, dans le ventre du père.
Un extrait de L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis aux éditions Vertical. Marie Sorbier, on entend bien la langue très particulière de cet auteur.
Oui, et c'est peut-être une des différences avec le livre dont on parlait avant, c'est-à-dire que là, il y a une création dans le texte d'une langue particulière. Et j'ai eu l'impression en tout cas que l'auteur avait besoin de ce subterfuge, c'est-à-dire de créer une nouvelle langue pour pouvoir s'exprimer, tant ce qu'il a à dire n'est pas simple. Je parlais d'un livre courageux parce que je trouve qu'il dit des choses vraiment que j'avais peu lues avant ou peu entendues. Il les dit et on sent que la littérature est pour lui un moyen de dire, et dans ce moyen de dire, il y a une invention de forme. Ça, c'est toujours plaisant quand on lit un roman avec une invention de forme, c'est ce qu'il fait. Alors, il se sert en effet du Danemark, qui est une toile de fond un peu de décor. En fait, elle sert pas à grand chose. On s'en fout que ce soit au Danemark ou ailleurs. D'ailleurs, toutes ces références sont des références très françaises d'un homme de 40 ans. Donc, on se reconnaît très vite. Et donc, le Danemark est comme ça. Une espèce d'univers un peu de dark metal, d'où les références au mal. Enfin, il pose en fait un décor comme une scénographie, un peu en carton-pâte, mais bon, pourquoi pas. Mais ça lui sert à une chose, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se sert de cette écriture un peu gothico-démoniaque, viking, en fait, on la voit quand on dit ces mots-là, cette écriture-là. Il y a certains des mots, et évidemment ce sont des mots choisis, qui sont écrits avec cette calligraphie-là, ce qui donne en fait un univers, comme si on était dans un livre de fantasy ou comme si on était dans un livre gothique, mais c'est sur certains mots seulement. Ces mots-là sont aussi utilisés comme acronymes, c'est-à-dire qu'on a des façons de parler, des mots collés. Donc il y a une invention du langage qui lui permet de dire, ça c'est sûr. Après, ce que raconte le livre, c'est que la société aujourd'hui n'est pas encore capable ou n'est pas capable d'écouter ce que ces gens-là ont à dire. En tout cas, moi, c'est la sensation très forte que j'ai eue en fermant le livre. Il y a des scènes terribles, notamment sur la fin, où l'écoute en fait amène à une condamnation, alors qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas.
C'est-à-dire, ouais.
Ouais, je sais pas. J'ai essayé de pas tout dire, mais en fait, je vais quand même
c'est
dire.
C'est compliqué. Mais...
Donc, le personnage a des pulsions, croit avoir des pulsions pédophiles, car lui-même
a été. C'est cette fameuse pensée envahissante.
Voilà, exactement. Ouais. Car lui-même a été touché sexuellement quand il était jeune adolescent. Il est aujourd'hui père d'une petite fille et il se pose 1000 questions. C'est un livre très foisonnant dans le sens où on a beaucoup de doutes et d'interrogations de ce narrateur qui se pose 1000 questions devant ce corps d'enfant, fille, petit, qui ne sait pas comment attraper. Et il a peur, en fait, de reproduire cette fameuse reproduction dont on parle tout le temps. Là, elle est décrite, je trouve, très précisément comment ses pensées l'envahissent, comment il a peur qu'elle, de faire un geste qu'il ne faut pas, comment faire pour ne pas être envahi par ses pensées. Et là, en fait, il a deux solutions. Première solution, il se renseigne, donc il lit beaucoup. On a d'ailleurs beaucoup de témoignages de toutes ses lectures uniquement sur ce sujet-là. Donc, il est envahi, mais en plus, il en ajoute parce qu'il lit que des thématiques similaires. Mais il essaie de se contenir grâce à la prose des autres, en fait, grâce au collectif. Et deuxièmement, il essaie de se faire aider. Donc, il va parler dans un endroit très étrange qu'il nomme la structure où on est censé avoir des personnes de confiance qui sont là pour écouter les victimes de pédophilie. Et en fait, ça se retourne complètement contre lui parce que ce qu'il va dire, ce qu'il va confier, en fait, ces femmes-là, c'est des femmes, je crois qu'il écoute, lui renvoie en fait une image un peu caricaturale de « Ouh là là, vous avez ces pensées-là, donc vous allez être un mauvais père, donc on vous retire votre enfant. » Ce qui est tragique, parce qu'il a mis 100 pages à nous expliquer que bah non, en fait, il lutte, c'est un homme qui combat, c'est pas un homme en prise avec des problématiques concrètes, il est dans sa tête. Et que en fait, le simple fait de le dire, bah, on n'est pas capable d'écouter, on n'est pas capable de l'accompagner, donc la seule réponse qu'on a, c'est « on s'en va ». On rejette en fait. Mm. Et ça, je trouve ça mais vraiment terrible, terrible de le lire avec autant de violence. C'est un livre qui a beaucoup de colère, qui est très drôle en effet aussi, notamment le début sur la parentalité, mais on va peut-être y revenir.
Oui,
mais voilà, mais j'ai trouvé ça... en fait, pour une fois, c'est pas toujours le cas dans ce genre de livre témoignage, en fait, la littérature est vraiment un outil d'expression.
Virginie Bloch-Lenné, l'humour sur ce thème-là, on y a du mal à l'imaginer.
Oui, mais s'il y a de l'humour, et je pense que beaucoup de parents peuvent se retrouver dans l'exaspération, les effets sur un parent de l'exaspération, de la fatigue, quand on est face à un enfant auquel on doit demander quelque chose et qui n'a pas envie de le faire. Donc il raconte très bien ce moment. Et qui peut dérailler, parce qu'il y a un adulte qui a de l'autorité sur un enfant. Et il raconte des moments de méchanceté qu'il a. Il est traversé, par exemple, à un moment par un élan désagréable. Sa fille lui dit « papa, papa », il en peut plus. Au bout d'un moment, il lui dit « vas-y, répète papa ». Elle répète 10 fois, mais ça va se retourner contre le père, parce que pendant 1 heure, elle va dire « papa ». Donc, même quand on n'a pas vécu ce que lui a vécu, je pense que quand on est parent, on peut se retrouver dans des moments où on peut dérailler. Il se moque de lui-même, comme l'a dit Marie, c'est un livre où il y a beaucoup de vérité. Il n'a plus de désir, il est épuisé, il n'a plus de désir quand il rejoint sa femme au lit. C'est un lit où on n'a plus envie de faire l'amour. Il a même à peine envie de dormir. Donc, c'est l'humour est là. L'humour est aussi dans cette calligraphie. Plus il va mal, plus on lit mal le mot.
Ah oui.
Mais c'est une gravité qui est qui est voilà, porté par l'autodérision.
Et effectivement, Marie, le point de vue d'un homme sur ces questions-là, je n'ai pas trop de souvenirs d'en avoir entendu parler, mais il fait, lui, référence à des affaires qui ont percuté l'actualité oui. très récemment.
Oui, notamment, il parle de Flavie Flamand, et il lui rend un hommage, en fait, comme quoi ce serait une des premières à
Donc Flavie Flamand, animatrice télévision, qui, vers 12 ans, je crois, a été agressée à plusieurs reprises par le photographe David Hamilton.
Par le célèbre photographe, et lui-même dit qu'il a regardé les photos de David Hamilton et qu'il s'est senti, quand Flavie Flamand avait témoigné, comme bah, avoir fait partie d'une grande constellation de gens qui ont regardé ces photos qu'il estime être dégueulasses. Et donc, il rend hommage, c'est assez beau, à cette femme en disant, mais elle a osé parler, elle a dit, et quand elle a ouvert cette parole-là, lui s'est senti concerné et aussi a senti la possibilité de faire de même, c'est-à-dire de pouvoir parler de ce qui lui était arrivé plus jeune et puis de pouvoir l'analyser. Et il rend hommage à beaucoup de gens comme ça, à des essais, à des penseurs, à des penseuses, mais aussi à d'autres. Hein. Il parle de Rimbaud, enfin, on est sur une constellation de références très large. Et ça, c'est assez beau, parce qu'il se constitue finalement ce collectif qu'il n'a pas dans la vie, mais dans la tête, d'auteurs, d'autrices, qui lui ont permis de se créer un squelette pour pouvoir grandir. Et il rend hommage, mais aussi il dénonce, hein, voilà. Parce qu'il y a quand même toute une partie sur, par exemple, on parlait de Claude Lévesque. Claude Lévesque, le plasticien qui fait des néons, qui a été accusé il n'y a pas si longtemps que ça d'avoir eu des comportements déviant avec des petits enfants, enfin des petits garçons, et il se demande en fait, lui il a regardé ces néons de Claude Lévesque, il les a aimés, il aimait l'artiste, il apprend ça, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres, est-ce qu'on les oublie, on les met au placard, ou au contraire, est-ce qu'il faut les exposer pour se souvenir que ce mec-là était un mec pas bien.
Et il en dit quoi de ça justement?
Bah, il a une idée géniale, oui.
Je vous laisse.
Oui, lui, son idée. Alors, il en dit, il est plutôt pour ne pas les montrer à tout le monde, et donc ça, c'est ouais, et pour les réunir dans un musée qui réunirait toutes ces œuvres-là.
Alors, mais toutes les œuvres
pédophiles.
D'artistes pédophiles.
Alors, il y a Claude Lévesque. Il cite le journal de Michel Pollack. Il parle de Tony Duvert, bien sûr de Mads Neff, d'une ambiance générale avec des noms. Voilà, ce qu'il cite sur le journal de Pollack est assez immonde, mais je l'avais pas lu. C'est la première fois que je l'ai pas lu, ce journal. Donc.
Il parle aussi beaucoup de Nabokov et de Lolita.
Il en parle très bien.
Oui, et il en parle très bien. Comment on n'a pas compris ce livre, comment Nabokov lui-même a essayé d'expliquer en disant non, mais vous méprenez, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Le film, enfin, il explique. Donc, il se sert quand même des œuvres d'art qui l'ont entouré pour décortiquer une pensée dominante.
Et ça reste un roman. Ça reste un roman, c'est-à-dire c'est un essai roman.
L'écriture est tellement belle et travaillée que c'est un récit, mais qui est transformé en œuvre de fiction par cette écriture.
Ben merci à toutes les deux. Je rappelle le titre, L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis aux éditions Vertical. Et le premier livre dont nous avons parlé, Mon vrai nom est Elisabeth Dadel-Lyon aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup. Toutes les infos, toutes les références, c'est sur la page des Midi de Culture. Maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.